Oui, salut, c'est Manu de Thionville. Donc c'est juste pour répondre aux propos dans l'émission spéciale Rocky, à propos de Rambo, le shérif, il a bien fait la guerre de Corée, ça se trouve dans le livre Le Premier Sang de David Morrell, qui a été l'ouvrage référent de Rambo 1. Voilà, les longues vies à Blockbuster. Ciao.
Moi, j'ai eu la chance de le regarder avec un mec qui avait fait de la boxe. Votre Rocky, là, au deuxième round, il est mort. Par contre, le Rambo, c'est bien les 45 premières minutes. Après, c'est de la merde. Le 2, c'est de la merde. Le 3, c'est de la merde. Et Rocky, c'est pareil. J'aime pas.
Je viens d'écouter l'émission sur Kaamelott. Excellent comme d'habitude. Par contre, juste un petit point. Apparemment, Alexandre Astier aurait dit que Kaamelott aurait pu se passer n'importe où et n'importe quelle époque. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Dans le sens où ce qui quand même a fait le succès de la série, c'est de pouvoir utiliser un langage châtié contemporain dans une époque médiévale, un peu comme les visiteurs à l'envers. Et c'est ça, justement, qui plaît énormément. Bisous à tous.
Ouais, c'est Luc Blockbusters, hein, c'est Cyril Arrangé. Depuis quelque temps, il y a quelques messages qui ont l'air de me fâcher un petit peu. Alors, féminisme par là, blablabla, blablabla. Alors moi, personnellement, bon, voilà, je suis gay. Je vais pas aller sur un répondeur, en l'occurrence celui de votre émission de pop culture, pour dire que vous ne parlez pas suffisamment des personnages PD, LGBT, machin, blabla. Je tenais à le dire. Bah oui, on est encore un petit peu en France, et la société qui se divise, qui se fragmente en petits particularismes. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, c'est pas comme ça qu'on prépeuple. Je peux comprendre les revendications, mais quand même. Je vous embrasse, bisous, ciao.
Je me pose des questions. Hier, par exemple, un internaute m'a déclaré que Blockbuster était une émission de geek qui regardait des films de beauf en mangeant des chocapics sur un canapé. C'est évidemment totalement faux, j'aime pas les chocapics. Mais un peu plus tard, sur Facebook, je suis tombé sur le message d'une internaute qui me disait en substance que la pop culture était intrinsèquement misogyne et que le choix des sujets et de mes invités était genré et par conséquent misogyne également. Alors j'ai immédiatement demandé à mes collaboratrices si c'était leur sentiment, et elles m'ont dit « Écoute Frédéric, on est quatre filles, t'es le seul garçon, regarde qui parle dans le micro. » Merde, je fais une émission genrée. Si ma femme l'apprend, je suis mort. Non mais je venais à peine de sortir du dossier charge mentale. Tout content que j'étais de pouvoir parler de ma culture geek durant 40 émissions sur France Inter, je ne me suis jamais demandé si finalement cette culture du blockbuster n'était pas discriminante. Et malheureusement, bah force est de constater qu'elle l'est. Il suffit de voir la réaction des fans quand ils apprennent que Nathalie Portman va endosser le rôle de Thor. Il suffit de voir les commentaires affligeants lors des parties de joueuses de jeux vidéo en ligne. Combien de femmes ont réalisé des blockbusters à gros budget ? Quand je pense à des invités, je désire des intervenantes autour de la table, mais au fond, est-ce que j'en connais ? Est-ce que je connais vraiment leur travail ? Non, parce que je suis un garçon, fils unique qui plus est, qui travaille sur une pop culture qui a 40 ans d'habitude. Est-ce qu'au fond, je ne suis pas comme tous ces mecs qui ne se rendent même plus compte qu'ils font partie d'un groupe largement privilégié ? Je pensais naïvement que la culture geek était non genrée, c'est faux. Elle est à l'image du reste de la société. Les blockbusters d'une société patriarcale sont patriarcaux. Je vous disais en début d'édito que je me posais des questions. Et bah pour ma petite fille, mais aussi pour toutes les autres, et pour aller vers un peu plus d'égalité, il serait peut-être temps que je trouve des réponses.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Question. Tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought.
I love you.
185,5 millions de disques vendus dans le monde. À cela s'ajoutent 65,5 millions d'exemplaires vendus avec le groupe Destiny's Child. Beyoncé, de son nom complet Beyoncé Giselle Knowles Carter, est la deuxième artiste la plus récompensée au monde, juste après Michael Jackson. En 2010, le magazine Forbes classe Beyoncé à la deuxième place de sa liste des 100 célébrités les plus puissantes et influentes dans le monde. Le clip qu'elle a tourné au Louvre avec son mari Jay-Z affiche 180 millions de vues. Des chiffres qui donnent le vertige tant la carrière de Beyoncé, cette diva du R&B, accumule les succès et les récompenses comme rarement une artiste ne l'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Pour revenir sur cet incroyable parcours, j'ai avec moi Kiemis.
Bonjour.
Vous êtes autrice et poétesse afroféministe. Vous travaillez sur la place des afro-descendantes dans les espaces européens et la question de l'amour de soi et du body positive.
Bonjour Frédéric.
Également avec nous Naomi Clément.
Oui, bonjour. Bonjour.
Vous êtes chef de la rubrique musique pour le magazine Antidote et spécialiste en R&B.
Exactement.
Également avec nous Louise Vesbéché.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes journaliste responsable du service culturel du Huffington Post. Et enfin Lucie Niekraz, rédactrice pour le webzine Mademoiselle. Bonjour.
Bonjour.
Ensemble, on reviendra sur le parcours de celle qui a débuté par des cours de danse au Texas pour finir par faire danser la planète entière. On parlera de la création des Destiny's Child sous la supervision de papa et maman Knowles, jusqu'à la dissolution du groupe. On parlera de cette carrière solo, jalonnée de tubes et de récompenses à tout va. On parlera bien évidemment de l'engagement politique de Beyoncé, de son féminisme qui fait souvent débat, de son militantisme désormais clairement affiché pour la cause noire américaine. Bref, on va faire une petite escapade d'une heure dans la monarchie Queen Bee. Ce qui est bien avec Beyoncé, c'est que ça chante aussi autour de la table. Non, c'est... Alors, la première question, Naomi Clément, qui est Beyoncé, d'où elle vient?
Alors, Beyoncé vient de Houston, au Texas. C'est une ville dont elle parle énormément à travers sa discographie, notamment lorsqu'elle l'appelle la H-Town. Et tout commence là-bas, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle commence à prendre des cours de danse. Elle est repérée à l'école par, je crois, sa professeure de danse. Qui un jour la découvre en train de pousser la chansonnette et en fait elle se dit « Ah mais en fait cet enfant a une voix, en plus de savoir danser ». Et donc Beyoncé commence à intégrer, après plusieurs auditions, un groupe qui s'appelle Girls' Time, dans lequel il y a aussi son amie d'enfance Kelly Rowland, et notamment deux autres jeunes filles à l'époque, Latoya Luckett et Latavia Robertson, et en fait ce sont ces quatre-là, les quatre membres qui formeront la base des Destiny's Child en 96. Elles se font signer sur le label Columbia. Et ensuite, elles sortent leur premier album en 98, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Destiny's Child. Donc c'est là que tout commence. Beyoncé vient de là.
Donc elle a commencé super tôt.
Direct, super tôt. À 7 ans, je crois qu'elle chantait déjà. Et d'ailleurs, elle a utilisé sur son album Beyoncé, il me semble, plusieurs archives de cette époque-là. On la voit danser avec sa sœur Solange, qui était danseuse pour les Destiny's Child avant de devenir l'artiste qu'on connaît aujourd'hui. Et ouais, tout commence là. Et moi, c'est à ce moment-là aussi que je découvre Beyoncé. Parce que même si elle était au sein de ce groupe, pour moi, c'était elle qui brillait.
Oui, c'était difficile de pas...
Voilà,
ça rappelle un petit peu Michael Jackson avec les Jackson 5.
Exactement.
Où effectivement, il y a une personnalité qui se distingue des autres.
Et elle s'est distinguée d'emblée, en fait. Et c'est marrant parce que si on met côte à côte les trois premiers albums des Destiny's Child, donc ceux qui ont précédé le premier album en solo de Beyoncé, on voit l'évolution juste sur les pochettes. Au début, elle est en fait sur le côté, tout à droite, on la voit quasiment pas. Sur le second, donc The Writings on the Wall, qui est moi mon album préféré, sur lequel il y a Say My Name, on la voit, elle est plus mise en avant devant, et sur le troisième, Survivor en 2001, elle est clairement aux côtés, elle glow, enfin voilà, c'est et donc on peut voir que au sein des Destiny's Child, on a eu les prémices en fait de l'immense carrière que connaîtra Beyoncé.
Et alors, ce qui m'intéresse souvent dans la carrière de grands artistes comme ça, qui font des carrières internationales, c'est de savoir un petit peu le milieu dans lequel ils ont évolué. Est-ce que c'était plutôt une famille bourgeoise, une famille pauvre? Parce que on a fait Prince la semaine dernière et on se rend compte que le milieu assez pauvre dans lequel il a grandi, c'est ça qui l'a déterminé. Est-ce que c'est le cas pour Beyoncé ou non?
Je ne crois pas. Je crois pas que ce soit une famille aisée, pas non plus très pauvre. Je crois que son père, il travaille dans une entreprise d'imprimante à l'époque. Sa mère, dans un salon de coiffure. Les filles, si je dis des bêtises, n'hésitez pas. Et en fait, ce qui est, je pense que ce qui a aidé Beyoncé à devenir l'artiste qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'elle a tout de suite eu le soutien de ses parents. Son père, Matthew Knowles, est devenu son manager. Il a quitté son travail, il l'a tout de suite épaulé avant même le Destiny's Child, en fait, dès Girls Time. Et sa mère, elle a fait tous les costumes des Destiny's Child tout au long de la carrière des Destiny's Child. Donc, je pense que voilà, elle a pas grandi dans un milieu super aisé, mais elle a tout de suite eu le soutien de sa famille. Et je pense que c'est ça l'a porté. Enfin, et après, bien sûr, elle est très talentueuse, mais ouais, je pense pas qu'elle vienne d'un. Je crois pas.
Et Kémis, vous avez découvert Beyoncé à quelle époque?
Écoutez, moi c'est ma mère qui écoutait l'album, pareil, le deuxième album
The Writing Room, on a eu les mêmes mères.
Qui écoutait les Destiny's Child quand elles étaient encore quatre. Et je me souviens que j'écoutais pas des masses, enfin il y avait beaucoup de musique noire américaine à la maison, donc j'étais pas ultra fan. Mais moi je me souviens que la bombe c'était Crazy in Love en 2002
avec
Jay-Z, et ce clip où elle a une démarche incroyable de diva qui m'a tout de suite portée. Je me souviens, j'étais en sixième et on écoutait tout ça au collège, quoi. Et donc c'est à partir de ce moment-là que mon attention s'est attachée à Beyoncé, quoi.
Et Crazy in Love, qui est toujours une des chansons les plus les mieux notées dans tous les classements des fans de Beyoncé.
Bah, elle est iconique, cette chanson. Le clip est incroyable. Je pense que là c'est un peu le moment où Beyoncé dit bah voilà, maintenant je suis toute seule, je suis là et vous allez me voir et vous allez pas pouvoir passer à côté. Et tout de suite c'est une explosion, en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais moi c'est l'effet que ça m'a fait. Je me souviens encore dans la chambre de mes parents quand je vois le clip la première fois, je me dis oh là là, c'est qui cette fille.
Et Louise Vesbécher et Lucine Écrase, vous avez découvert quand Beyoncé?
Moi, je pense que c'est avec Crazy in Love aussi, c'est à peu près la même période. Et en plus, elle venait d'un truc très lycée quand même, Destiny's Child, girls band, filles et tout. Et là, elle s'affiche avec un rappeur qui est plutôt un rappeur un peu malfamé à l'époque, enfin en tout cas qui commence.
Deux, trois histoires de
drogue. Voilà, qui a quelques histoires derrière lui. Et elle vient du R&B, elle s'affiche direct avec un rappeur. Et c'est aussi le début d'un truc musical vachement bien dans sa musique à elle.
On va continuer de parler de Beyoncé, mais avant cela, si on l'écoutait chanter, on écoute Beyoncé.
Mother. run this back. I'm prepping for the girls who are taking over the world. Help me raise a glass for the college grads. 41 rolling to let you know what time it is. Check, you can't hold me. I work my 9 to 5, gotta cut my check. This goes up to all the women getting it in. You want your prime. To all the men that respect what I do, please accept my shine. Boy, you know you love it. How we smart enough to make these millions, strong enough to bear the children. Then get back to business.
C'était Girls de Beyoncé dans Blockbuster sur France Inter. Nous sommes toujours avec l'autrice et blogueuse Kim Miss, les journalistes Louise Esbéché et Naomi Clément et la rédactrice de Mademoiselle Lucie Niekras pour parler de Beyoncé. Lucie Niekras, justement, on n'a pas eu le temps d'évoquer votre découverte de Beyoncé.
Alors moi j'ai un peu grandi avec Beyoncé en fait parce que je suis née en 97 donc à peu près en même temps que
excusez-moi.
Les Destiny's Child.
C'est le quadragénaire en moi qui vient de faire un petit léger AVC, je reviens.
Et c'est vrai que je l'écoutais, enfin j'entendais ses chansons à la radio etc, mais c'est surtout quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme que ses chansons ont commencé à me parler vraiment. Independent Woman de Destiny's Child, Run the World, ce genre de chansons, c'est vrai que ça a commencé à plus me parler. J'ai regardé des lives de ses concerts et c'est là que je me suis dit waouh, c'est vraiment un monstre cette femme.
Enfin, oui, parce que sur scène c'est un phénomène.
Elle a une prestance et une confiance en elle en fait. Elle a une aura de confiance en elle qui émane comme ça et en fait c'est fou parce qu'on dirait que elle remet absolument pas en question sa légitimité, c'est-à-dire que c'est une femme noire et pour autant elle dit c'est moi la reine en fait et c'est moi qui suis sur scène et vous allez me regarder et je sais que c'est moi que vous voulez sur scène à ce moment précis et je trouve ça incroyable en fait d'avoir autant de confiance en soi.
Alors je sais que c'est mettre à penser, c'est des femmes comme Aretha Franklin, elle était évidemment fan de Michael Jackson, mais très très tôt elle a vraiment conceptualisé l'idée de devenir une artiste intemporelle qui allait cartonner dans tous les domaines.
Et elle a, je pense que ce qui a réussi aussi à l'imposer, qui a réussi à l'imposer sur cette scène R&B et en fait pop maintenant américaine, c'est justement son côté hip-hop qu'on évoquait tout à l'heure avec Jay-Z. Mais en fait, quand on regarde les Destiny's Child, dès un morceau comme C'est My Name, si on écoute bien ce morceau, elle a une façon de chanter qui, en fait, à la limite du rap, elle a un truc hyper saccadé. Et c'est un truc qu'elle traîne avec elle depuis le début. Si on écoute jusqu'à son dernier album avec Jay-Z, Everything Is Love, sur le morceau Ape Shit, clairement, elle vole la vedette à Jay-Z, qui est quand même un des meilleurs rappeurs de
Ape
cette génération.
Ape Shit, qui est le clip tourné qui a été tourné au Louvre.
Exactement.
En une nuit.
Exactement, je sais pas comment ils ont fait, mais voilà.
Oh bah moi, j'ai une petite idée. Je pense que le Louvre aussi, dans ses caisses, ils ont aussi une petite idée.
C'est clair, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont fait d'elle cette artiste-là. Elle a, en fait, elle est, voilà, elle sait, elle a la voix de, enfin, elle sait tester des divas comme Aretha Franklin, mais aussi des rappeurs comme Jay-Z, son mari. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle s'est imposée avec autant de force et autant de puissance jusqu'à aujourd'hui.
Et alors, au moment des Destiny's Child, il y a eu des membres qui se sont perdus en cours de route quand même, parce que on a connu la version finale des Destiny's Child avec
Michel et
voilà, Kenny Roland. Mais il y en a deux autres qui ont disparu dans la nature.
Il y a
un dossier.
Il y a eu des tensions, je pense, déjà. Parce que tout simplement, Matthew Knowles, comme on le dit, était le manager et effectivement, lui aussi, il avait un projet de mettre Beyoncé en avant. Mmh. Seulement, Latoya notamment, qui est une chanteuse assez remarquable, n'était pas forcément en accord sur l'idée d'être reléguée au second plan. Et forcément, ça a mis des tensions très vives dans le groupe jusqu'à la dissolution en fait du groupe et ensuite l'arrivée de Michel.
Ouais, mais il y a eu des coups bas apparemment. Alors on n'a pas tous les détails de l'histoire, mais en fait, je crois que Latoya et Latavia ont découvert qu'elles étaient virées du groupe au moment où le clip de C'est My Name est sorti et dans lequel, en fait, elles n'avaient pas été conviées au tournage. On n'a pas tout le fin mot de l'histoire, mais voilà. Et ensuite, donc ça, c'était sur l'album The Writings on the Wall.
Mais ça, en fait, c'est la genèse d'un super vilain, ça. Hein.
Oui, ouais. Tout à fait.
Elles doivent être dans une cave quelque part.
C'est une origin story.
Avec une photo de Beyoncé. Un jour, je m'arrangerai.
Et en fait, sur l'album qui a suivi, donc le troisième album des Destiny's Child qui s'appelle Survivor, sur le morceau Survivor, il y a une phrase en fait qui a fait polémique, c'est quand Beyoncé dit « Vous pensiez que sans vous, j'étais rien et en fait, j'ai vendu 9 millions ». Et en fait, ça, c'est un tacle qu'elle envoie directement à ses anciennes collègues et qui, je crois, a été réutilisé dans un procès qu'il y a eu parce qu'il ne devait pas y avoir de questions de diffamation. Et en fait, en faisant ça, bah, Beyoncé fait un peu de diffamation. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je crois qu'elles sont amies maintenant. J'ai vu qu'elles s'étaient retrouvées.
Oui,
voilà.
On ne se passe pas dans ce métier. On ne se passe pas. On est très contente pour toi, Beyoncé, bien sûr.
Je crois qu'il y avait vraiment des vraies tensions qui étaient assez explicites à l'époque. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, Naomi, sur le talent de Beyoncé, je pense que ce qui a beaucoup marché avec elle, c'est qu'elle est très versatile et qu'elle arrive beaucoup à s'adapter en fait, parce que on se rend pas compte que Beyoncé c'est 20 ans de carrière et que à chaque fois elle sort un nouvel album et ce nouvel album est quelque chose de nouveau presque, elle n'a pas vraiment fait avant et que elle s'adapte vraiment aux changements musicaux dans son genre et c'est assez remarquable je trouve.
Et puis en termes de récompenses aussi, elle a été mais récompensée un nombre incalculable de fois.
Ouais, je sais plus combien de fois, mais...
Il y a au moins une dizaine de Grammy, au bas mot.
Je crois que c'est l'artiste féminine qui a été la plus récompensée, toute catégorie confondue.
Après, il y a eu toujours le petit pépin avec Adele qui a eu l'album de l'année. Je sais pas si vous vous souvenez de cette polémique. C'est vrai que, bon, Beyoncé, effectivement, a été beaucoup récompensée, mais on va dire que son parcours n'est pas sans aussi quelques petites anicroches, notamment parce qu'elle n'a pas été récompensée pour son album visuel Lemonade. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette polémique.
Oui, mais je pense qu'il y avait aussi, c'est aussi à ce moment où elle a affiché vraiment son côté noir, et je pense que c'est ça qui l'a un petit peu, voilà, dit, oula, polémique. Enfin, pas de problème. Alors, je suis entouré par des expertes, je sais pas si on dit experte, on peut le dire, hein. Mais l'êtes-vous vraiment? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant Beyoncé, saurez-vous y répondre? Beyoncé se dit féministe, Rihanna aussi se dit féministe, mais pour elle, pour Rihanna, c'est souvent plus contesté. Alors, est-ce que pour être une féministe respectable, et je fais des gros guillemets, il faut avoir un statut de maman et un mari qui vous trompe?
Oh mon Dieu! Non!
Bonne réponse, Kéfi! Non mais c'est vrai, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que je trouve que Beyoncé a vraiment, elle convoque tout le folklore de la chanteuse R&B, paillettes, short, etc. Elle fait des danses très suggestives, mais Généralement, on dit jamais qu'elle est provocante ou on lui plaque pas les défauts qu'on pourrait plaquer sur une Rihanna, par exemple. Et je me suis toujours demandé si c'était pas parce qu'il y avait Jay-Z, qu'elle s'affichait avec ses enfants, qu'il y avait pas ce côté un peu réactionnaire, conservateur autour de ça.
Après, je pense que de toute façon, quand t'es une féministe, tu peux jamais gagner. Soit t'es en body short paillettes et on te dit que oui, de toute façon, t'es qu'un objet sexuel. Soit tu veux mettre des pantalons et on te dit que t'es une féministe, poilue, je sais pas quoi. Donc, je pense que à ce niveau-là, c'est un peu compliqué de gagner. Et mais c'est marrant parce que je pense que Beyoncé est assez scrutée et je pense qu'effectivement son féminisme est justement remis en cause parce qu'elle a fait des chansons comme Carter to You avec avec les Destiny's Child, même Single Ladies, bon c'est pas non plus l'hymne féministe, même si j'adore cette chanson, c'est pas l'hymne féministe qu'on connaît. Et pourtant je pense que Beyoncé comme Rihanna propose des féministes qui sont assez intéressants, qui peuvent permettre une entrée en fait tout simplement. Et et pour revenir sur Beyoncé, il faut pas oublier qu'elle a quand même c'est l'une des premières, si ce n'est pas la première pop star qui met en lumière une féministe africaine. Je pense que si je posais la question à 90% des gens qui passent dans la rue, ils connaîtraient pas le nom d'une féministe africaine. Et grâce à elle, tout le monde connaît Chimamanda Adichie, son fameux discours, la définition du féminisme. Parce que malheureusement, parfois, il faut la repréciser.
Il y a quand même un truc, tu dis qu'on lui reproche pas grand-chose, ou en tout cas, on remet moins en question ce qu'elle dit. En fait, à chacune de ses prises de position, ça déclenche quand même des énormes polémiques. Aux États-Unis, quand elle était au Super Bowl avec Formation, qu'elle avait les bonnets, le point levé des Black Panthers, etc., il y a eu un énorme mouvement de boycott aux États-Unis qui s'est lancé après ça. Et encore là, sur l'album du Roi Lion, dont on parlera peut-être un peu plus après, elle a une chanson qui s'appelle Brown Skin Girl, où elle prône la beauté des peaux noires. Et je sais que moi j'ai fait un article sur ça la semaine dernière et on s'est pris un torrent de commentaires qui disaient n'importe quoi, elle ferait mieux de se blanchir la peau et tout. Donc en fait, ces prises de position sont vachement contestées quand même, autant peut-être que Rihanna ou qu'une autre.
Et c'est les mêmes gens qui vont ensuite te dire ah, mais de toute façon elle se blanchit la peau, elle est en paillettes, elle a rien à dire. Encore une fois, on gagne jamais quand on est féministe.
Non, mais je crois que ça, dans ce questionnaire, c'est la phrase qui restera. On gagne jamais quand on veut être féministe. Bon, bah, merci pour toutes ces réponses. Je vais les compiler dans mon petit carnet Blockbuster 2019. Le temps d'écouter Aloïs Sauvage qui nous interprète À l'horizontale.
Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative, rêve dans le semi-remords. Les risques, les fluves de l'arène me fait bouillir. J'ai le cœur au combat, même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges, donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale, à l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tremper ses lèvres, ou tempérer la fièvre. Sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras m'entourent, mais t'entoure. Je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'adonner à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale, à l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scène. Moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant. Le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle.
Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
C'était Aloïse Sauvage sur France Inter.
Blockbuster sur France Inter.
I look the stairs so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now, your love.
C'était Crazy in Love de Beyoncé, l'autrice et blogueuse qui émisse, les journalistes Louise Vesbéché et Naomi Clément et la rédactrice de Mademoiselle Lucie Niécrase sont toujours là pour parler de Beyoncé. Et Lucie Niécrase, justement, Lemonade, ça a été un album tournant pour Beyoncé.
Oui, je pense que c'est celui où elle a commencé à vraiment montrer qu'elle avait des origines noires et que en fait elle les revendiquait ouvertement. Elle a aussi parlé pas mal de des violences policières dans cet album, ce qui a un peu fait polémique. Et je pense que ouais, c'est dans cet album-là qu'elle a vraiment commencé à affirmer qui elle était et de manière politique. Et c'est assez paradoxal parce qu'en même temps, c'est son premier album qui est vraiment tourné vers sa vie privée, puisqu'elle évoque le fait que son mari l'avait trompé. Son album est décrit en fait les 12 étapes par lesquelles elle est passée pendant ce moment de sa vie de couple. Et
il n'y a pas eu de réponse de Jay-Z d'ailleurs. Il a pas
je
d'album,
crois que si, en plus, il me semble qu'il a fait un album.
Il a fait un album après, ouais.
Oui, c'est ça.
Forgive me, forgive me.
C'est un peu ça, je crois.
Je traduis, c'est pardon, pardon.
Mais c'est vrai que cette double lecture est assez intéressante parce que elle n'a pas pu se contenter de faire un album sur sa vie de couple. Elle a dit, je vais rajouter du politique dedans pour rajouter un peu de profondeur peut-être. Et c'est ce qui fait pour moi que cet album est super complet et très harmonieux en fait.
Ouais. Oui. Non, parce que tu disais, c'est un tournant. Certains disent elle a changé d'opinion, etc. Je pense qu'on peut l'expliquer complètement autrement. En tout cas, moi, j'avais discuté avec une chercheuse américaine qui s'appelle Kinitra Brooks et qui a créé un cours il y a quelques années qui s'appelle Femmes noires, Beyoncé et culture populaire. Mmh. Et en fait, elle explique simplement que c'est l'expression de sa liberté gagnée après 15 ans de carrière. C'est en mode, ok, elle est arrivée à un stade où elle est reconnue, elle est aimée, elle fait de la bonne musique. Et du coup, elle peut assumer complètement son identité parce qu'elle est à un stade où on ne pourra plus lui reprocher ça. Donc, ce n'est pas un tournant, en fait. C'est juste, assumer complètement ce qu'elle fait et prendre le risque de cliver, parce que souvent, aux artistes pop culture, on leur dit « Oh là là, pas trop de prise de position, parce que sinon, tu vas commencer à perdre certains fans dans ta base. » Et elle s'est dit « En fait, moi, j'y vais et tant pis. »
Alors justement, à propos de clivage, Beyoncé s'affiche volontiers comme féministe. Cependant, cette dimension-là, nombreux et nombreux sont ceux qui n'y croient pas.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
On peut ne pas connaître une note de ses chansons, on ne peut pas y échapper.
Disons qu'elle est en même temps féministe, mais bon, Single Ladies Put a Ring on It, c'est un hymne au mariage aussi, donc c'est féministe à l'américaine, dans un cadre où, porter un pantalon serait déjà presque une preuve d'émancipation.
C'est toutes les semaines, ça va de Elle aux Parisiens, en passant par tous les canards culturels, on ne peut pas y échapper.
C'est pas féministe au sens où on l'entend en Europe, hein, c'est vraiment au sens américain, c'est-à-dire qu'elle a quelques propos du genre, mais ça relève plus de l'incantation. C'est vrai qu'elle a pas, on la voit pas en tête des manifs ou protestant en faisant des sit-ins.
Ça va un peu dans tous les sens. Elle a notamment chanté pour le dictateur libyen, enfin, il
pour
était
Kadhafi,
aussi
hein, oui.
pour Kadhafi.
Elle fait partie de la belle brochette des artistes de qui se sont fait acheter.
Alors, elle a dit,
j'ai
tout reversé aux enfants haïtiens. D'accord, mais enfin, elle était quand même là.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Bon, alors là, tout y passe. Son féminisme plus ou moins remis en question, le fait qu'elle ait chanté pour Kadhafi. En même temps, il y en a qui chantent pour eux, il y en a d'autres qui les invitent à Paris. Enfin, j'ai dit ça, je dis rien. Mais donc, que dire sur la personnalité polémique de Beyoncé, qui émisse.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est que il faut pas oublier que déjà Beyoncé est très effectivement est très critiquée, mais moi je m'intéresse beaucoup aux effets en fait de ses discours, parce que après on peut réfléchir sur la sincérité de son propos, on peut réfléchir sur le fait que soit une opération soi-disant de communication, et je rejoins ce que tu disais Louise, je suis pas convaincue que ce soit la meilleure manière de souder des bases, mais les effets concrets, moi je les vois, je vois qu'il y a des filles qui ont été initiées au discours féministe de d'autrices noires américaines, mais aussi noires africaines. Je pense que c'est important. Je vois qu'elle soutient aussi des organisations caritatives, notamment dans sa ville de Houston, etc. Je pense pas que ça veut dire que le féminisme de Beyoncé n'est pas critiquable. Je pense juste que parfois la critique, elle me paraît, voilà, quelqu'un disait dans tous les sens. Ben justement, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens en fait.
Mais je crois qu'il y a un sage qui a dit que quand on est féministe, on peut, de toute façon, on gagne jamais.
Voilà. Je pense que la personne qui a dit ça était très intelligente d'ailleurs.
Bah, je sais pas, mais elle a toute une cohorte, une discipline, elle a fondé une école, je crois.
Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi se rappeler aux effets concrets mesurables. Ensuite, moi, j'ai des critiques sur les clips de Beyoncé. Moi, je lutte beaucoup sur la question de l'amour de soi, la lutte contre la grossophobie. Effectivement, dans les clips de Beyoncé, il n'y a pas beaucoup de femmes grosses. Mais après, c'est une autre question. Enfin, il y a d'autres questions qu'on peut aborder. Mais de savoir si, au fond de son cœur, est-ce que Beyoncé, elle est vraiment féministe ou pas, je vois pas trop l'intérêt personnel.
En fait, peu importe ce qu'elle est au fond d'elle, elle rend service.
Ce qui compte, c'est ses effets. Et encore une fois, je pense qu'on est aussi dans une période politique qui est assez compliquée, avec une résurgence de l'extrême droite, avec avoir une pop star qui s'affirme dans des mouvements de justice sociale, que ce soit discrètement ou pas. Je pourrais en reparler sur la question noire. C'est important.
Oui, parce qu'elle n'est pas toute seule là-dessus, Louise.
Ouais, non, je voulais pas. Pardon, allez-y, je sais pas sur quoi tu voulais me lancer, mais
par rapport à
ce qu'on a entendu dans l'extrait, il y a quelqu'un qui disait ouais, on la voit pas dans des manifs, elle est pas dans la rue, etc. Je pense que quand dans le clip de Formation ou dans Lemonade, vraiment, elle reproduit le meurtre de Trayvon Martin aux États-Unis, elle invite la mère de ce jeune noir qui a été tué par un policier sur le tapis rouge des MTV VMAs, et que toutes ces actions-là, ces représentations dans les clips, elles ont encore plus de force qu'une présence dans une manifestation, parce que ces clips, ils sont diffusés mondialement. Et il y a peut-être des gens qui ont découvert que des jeunes noirs américains avaient été victimes de bavures policières grâce aux clips de Beyoncé. Et du coup, je ne vois pas où est le problème.
Et concernant son engagement féministe aussi, dès 2006-2007, je crois, pendant sa tournée The Beyoncé Experience, elle avait fait un casting en fait pour avoir uniquement des musiciennes femmes, et c'est quelque chose qu'elle a reproduit après avec Coachella, où elle avait 100 danseurs afro-américains, et je pense que ça a toujours été un peu son fil rouge en fait de sa carrière, dans des petites choses qu'elle fait à chaque fois qu'elle apparaît à la télé ou en concert, elle continue de s'affirmer en tant que féministe et afro-américaine, et je pense que c'est respectable et on peut pas contester ça en fait.
Il y a aussi la Beyoncé actrice dont on n'a pas parlé, parce qu'elle a aussi visé le cinéma. Est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus? Parce que il y a eu Austin Powers, il y a eu Dreamgirls. Ah, j'ai l'impression que Dreamgirls, ça vous a parlé.
On en parlait tout à l'heure. Parce que Lucille a regardé hier soir, c'est ça?
J'ai regardé hier.
Bah moi j'avoue, j'ai des souvenirs moins forts avec la Beyoncé actrice qu'avec la Beyoncé chanteuse. J'ai vu ses films, je me souviens de Dreamgirls parce que j'avais le sentiment, bah en fait dedans elle est chanteuse aussi. Donc je me souviens que ça m'avait marqué beaucoup. Après, je pense que j'ai l'impression que c'est un peu un truc qu'elle a fait à côté et qu'elle avait pas vraiment vocation à se lancer là-dedans, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle touche encore une fois elle a énormément d'arc à son corde. Dont le fait d'être actrice, et ce qui lui permet un peu plus de diffuser son message, de diffuser sa puissance, sa voix, et ouais, c'est vraiment sur ça, elle est hyper complète en fait. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. So
sauce in my bag. I see it, I want it. I stunt yellow, want it.
C'était Formation de Beyoncé. Alors, là, on voit que Beyoncé a sorti il y a très peu de temps un album qui s'appelait Homecoming sur le concert qu'elle avait fait à Coachella. Mais elle a également sorti un album inspiré du Roi Lion où elle chante avec tout ce que la scène américaine compose de chanteurs les plus engagés, Childish Gambino, Kendrick Lamar, et également énormément d'artistes africains. Mm-hmm. Donc Kiamis, c'est d'où vient cette volonté de pas repartir comme ça vers le berceau de la civilisation?
Je pense que ce qui est intéressant, c'est que Homecoming, comme l'album qui est inspiré donc de Gifts, qui est inspiré de l'album qui est inspiré du film de Roi Lion, pardon, c'est un peu la même volonté en fait finalement de montrer la diversité des cultures afrodescendantes et noires. Typiquement, Homecoming, quand on voit le clip, ça fait beaucoup référence aux cultures qui existent dans les collèges qui sont les collèges noirs issus de la ségrégation et donc avec les fanfares, les bandes, etc. Et dans The Gift, déjà, je pense que elle pouvait pas passer à côté d'inviter des artistes africains qui sont quand même majeurs, hein, Tekno, Yemi Alade.
Et l'album est excellent.
Hein. Oui, l'album est super bien. Et puis il faut dire aussi une chose, hein, il y a aussi elle le fait aussi, elle est un peu intelligente parce que elle voit que les artistes africains et afrodescendants ont le vent en poupe. Tekno, Davido,
Burna Boy,
tout à fait. Donc elle est aussi intelligente parce que comme je disais tout à l'heure en fait, elle comprend aussi quelles sont les tendances à venir et c'est toujours aussi dans cette volonté qu'elle partage d'ailleurs avec sa sœur Solange de mettre en lumière et de sublimer les cultures afrodescendantes dans toute leur diversité. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas mal chez Beyoncé. Maintenant, j'espère qu'elle va faire des concerts aussi en Afrique. Et ce qui est bien aussi, c'est que, alors, Yemi Alade ou Tekno, enfin, c'est des artistes qui ont leur discographie propre. Hein, c'est pas n'importe qui, mais elle leur permet aussi d'avoir une peut-être aussi une aura internationale. Hein,
et de toucher des nouveaux publics.
Et toucher des nouveaux publics. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait. Et en même temps, enfin, je veux dire, le Roi Lion. Elle allait pas ramener, j'en sais rien moi, des artistes russes. J'ai rien contre les artistes russes, hein, mais il y a aussi une pertinence, enfin, d'inviter des artistes afro-descendants et africains, surtout quand la scène.
Oui, pour faire le Roi Lion, oui. Plus qu'avoir Elton John.
Voilà, mais cette scène est tellement vivante que je pense qu'elle pouvait pas passer à côté en fait.
Lucine Grave.
Oui, c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait en plus dans le clip de Run the World. Elle était tombée en fait sur une vidéo de trois jeunes danseurs du Mozambique et elle voulait reproduire en fait leur pas de danse dans son clip et voyant qu'elle n'y arrivait pas et qu'aucun de ses chorégraphes n'en était capable, elle a dit on va aller les chercher en fait parce que il y a que eux qui savent le faire et ils ont mis 5 mois à les retrouver et ils ont fini par intégrer le clip et ça leur a donné de la visibilité également et je trouve ça vraiment super chouette en fait de se dire, en fait, si nous, on n'est pas capable de le faire, pourquoi ne pas prendre des personnes qui savent de quoi ils parlent et comment ils bougent et c'était une super...
Il y a une petite vidéo qui est sur YouTube je crois que le groupe s'appelle Tofo, effectivement, ouais, et il y a une vidéo qui retrace ça et c'est assez touchant parce que tu les vois arriver à Los Angeles et en fait c'est marrant parce qu'ils ont pas trop l'air de savoir qui est Beyoncé.
Oui, ils disent comment tu t'appelles,
c'est quoi ton nom, et c'est enfin je trouve ça trop bien et elle est hyper à leur écoute et tu vois qu'elle a vraiment envie d'apprendre de leur culture. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'album Lemonade qui a permis de mettre en lumière, enfin avec lequel elle a revendiqué vraiment son héritage noir et avec lequel elle a mis en lumière pas mal de communautés africaines-américaines, c'est un truc qu'elle a déjà fait un petit peu par le passé. Effectivement, là, c'est hyper politique et ça a été beaucoup plus visible parce que le clip est hyper fort. Mais dans son album, je crois que c'était Beyoncé, donc 3 ans plus tôt, il y a un clip qui s'appelle No Angel, dans lequel elle filme, elle nous emmène dans le quotidien de je crois que c'est à Houston.
Houston, ouais, c'est ma préférée.
Et, ouais, et donc voilà, c'est un truc qu'elle a déjà fait, mais qui était un peu là, latent, quoi, et qui prenait pas le pas sur Beyoncé, la pop star.
Et j'ai l'impression, vraiment, là, je me fais assez, enfin, pas l'avocat du diable, hein, c'est même pas ça l'expression. C'est-à-dire que juste en observateur, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose ces dernières années aux États-Unis, au niveau de la communauté afro-américaine et des artistes, avec l'émergence de Black Panther, avec le Wakanda Forever, etc., qui a été repris par des sportifs, etc. Ensuite, il y a eu Childish Gambino, Kendrick Lamar. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une revendication très très forte et et aussi un retour, enfin, culturel vers les racines africaines qui est clairement affiché désormais et revendiqué.
Après, je pense que, alors déjà sur la vie de Beyoncé, juste si on se concentre juste sur la vie de Beyoncé, je pense que c'est important aussi de rappeler dans son éveil féministe ou sur les questions antiracistes qu'il y a eu l'épisode où sa fille est née et qu'elle a eu des vagues de harcèlement pendant des années, critiquant ses cheveux, critiquant son nez, etc. Et je pense qu'effectivement, des vagues de misogynoir, hein, c'est-à-dire la misogynie qui cible les femmes noires, qui sont arrivées sur sa fille comme ça. Donc je pense que déjà, objectivement, ça les a réveillées, enfin, ça l'a réveillée en tout cas. Et puis je pense qu'il y a aussi tout ce mouvement finalement qui mêle à la fois culture et politique qu'on voit chez les Noirs américains, qui est quand même présent hein, depuis les années, enfin qui existe aussi dans les années 60-70 notamment avec le Black is Beautiful, l'afro, etc. Je pense que ben c'est aussi lié à l'actualité en fait. Je pense qu'il y a une volonté de réaffirmer sa place en tant qu'afro-descendant dans toute sa dignité qui existe aux États-Unis avec des mouvements comme Black Lives Matter contre les violences policières, mais qui existe aussi en Europe et qui est accompagné, je pense, des artistes. Et je pense aussi que les artistes noirs américains, en tout cas beaucoup d'artistes noirs américains, ne peuvent plus faire l'impasse sur ces questions, notamment avec l'éveil des réseaux sociaux qui réduit un tout petit peu les distances entre les lambda comme nous et les stars, et qui peuvent interpeller directement leurs artistes en leur disant mais nous on vous soutient, donc vous devez soutenir la communauté. Et je pense que c'est super intéressant à observer.
Alors dans quelques instants on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, histoire de lui laisser encore quelques secondes pour potasser, réviser, on écoute Little Sims avec Offense. Cette émission est réalisée par Céline Hilla, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mancip, et à la technique aujourd'hui Pauline Laverdure et Théo Gomard.
To pick up where I left off, the biggest phenomenon, and I'm Picasso with the pen. They just wanna talk that stuff till I hit him with the realness. Figured I should say something, but you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I did to make you feel that you'd be earning my respect. You do not scare me, no, you are not a threat. Anyone I wanted, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be say with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my knight, got your queen in check. Mate, don't get touchy, don't be getting nigga feelings. All I do is kill this time, even when I'm chilling. I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. May as well get a birthday cake and it ain't even my birthday. Then they wanna say that I'm a
You're not listening, you're not listening. I said it with my chest and I don't care who I offend.
Came through swinging at the gate on a mad one, no. Stepping to the kid trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz and honey you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. Jiggy jiggy for the whole day. And anywhere would I be now if I went in none of your way. I've been exhausted, man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy hold a hay. Hold on my plug, I come back in town and I need an ounce, give me more place. Take mom on a spree, like get anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I probably any caboose and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Narsins won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a
I said it with my chest and I don't care who I offend. I said
with my chest and I don't care who I offend.
C'était Little Sims sur France Inter et maintenant on joue.
Attention qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui on a Alice au téléphone. Bonjour Alice.
Bonjour Frédéric.
Ça va? Vous êtes fan de Beyoncé donc?
Mais je suis une grande fan de Beyoncé depuis que je suis toute petite.
Ah, vous aussi, vous êtes née en 97.
Je suis en 93, mais du coup, ça marche.
Ah, c'est les années 90 quand même. Ouais. Bon, et votre chanson préférée de Beyoncé, c'est laquelle?
Ah, bah, je pense que ça serait la classique Crazy in Love. Hein. On reste dans les classiques. Hein. Ah,
j'ai l'impression qu'il y a un consensus autour de la table. Hein. Bon, vous connaissez le principe du jeu?
Oui, il faut que je réponde bien à 3 questions.
Voilà, en 25 secondes chrono ou un peu plus. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix.
Ok.
Prêt? C'est parti. Beyoncé s'est créé un double scénique. Quel était le nom de son... Ah bah ok, voilà, ok, de son alter ego. Voilà, mais parce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu la question, donc je vais la reposer. Beyoncé s'est créé un double scénique. Quel était le nom de son alter ego? Réponse A, Alma Pierce. Réponse B, Elsa Fries. Ou réponse C, Sacha Fierce.
C'est donc Sacha Fierce, Frédéric.
Voilà, bonne réponse, Alice. Voilà, et c'est venu spontanément, hein. Vous avez vraiment cherché longtemps. Pseudonyme qu'elle
alors,
a.
On connaît Beyoncé ou pas?
Bah oui, non, mais c'est respect. C'est un pseudonyme qu'elle a adopté à partir de 2003 avec la sortie du clip Crazy in Love. Il s'agit d'un double d'elle-même plus sensuel et plus agressif qu'elle abandonnera peu de temps après. J'ai fait la même chose avec un avatar qui s'appelle Michel Duchemin, qui est très sexy. Voilà. Question suivante. Dans quel film Beyoncé incarne-t-elle le rôle de Foxy Cléopatra?
Ah, c'est dans Austin Power et Goldmember, peut-être.
Oh là là, et est-ce que vous êtes capable de me donner le réalisateur?
Steve Meyer, non?
Non, c'est Jay Roach, mais allez, c'était une bonne réponse quand même, c'était une bonne réponse.
Dans Beyoncé, désolé.
Voilà, et maintenant on va vous faire écouter une interprétation de Beyoncé, tendez bien l'oreille. Quel est le titre de cette chanson?
Oh, mon dieu. List Every Voice.
And Sing, bonne réponse.
Oh là 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 là.
Oh là là, sans faute. C'est l'hymne de la communauté noire chanté lors de sa performance à Coachella en 2018.
Ah oui, j'avais reconnu.
Eh ben, Alice, vous savez quoi? Vous avez gagné le livre Beyoncé est-elle féministe paru aux éditions First.
Alice,
exactement. Merci à vous, merci beaucoup.
Ouais, merci à vous, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Alors, cette émission touche à sa fin. Qui est mise, c'est Louise Vesbécher, Naomi Clément, Lucie Niekraz. Je vous remercie. Une toute dernière question très rapide. Votre chanson préférée de Beyoncé, c'est laquelle?
Partie sur l'album Fort.
Qui est mise, ok.
Moi, je vais partir sur Crazy in Love, sur le premier album de Beyoncé, Dangerous in Love.
Naomi Clément.
Pour moi, c'est Hello, qui est une chanson très planante et très calme, un peu à contre-pied de ce qu'elle fait, mais magnifique.
Et
moi, Crazy in Love aussi.
Très bien, très bien. Chers auditeurs de Blockbuster, vous connaissez le principe. Si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Comme toujours, vous laissez nos commentaires, on les aime bien.
I am a workaholic and I don't believe in no. I don't believe in I need to sleep. If I'm not sleeping, nobody's sleeping.
Et on se retrouve demain pour parler d'un jeu vidéo qui a mis les nerfs de plein de joueurs à rude épreuve, Resident Evil.